On va prier, vous voulez bien? Parce qu'on a chanté « Nourris-moi de ta parole » et je suis sûr que c'est votre désir profond et que le Seigneur nous aide et nous visite. Ta parole est la vérité, mais elle est aussi cette vie que tu veux produire dans nos cœurs. Elle n'est pas stérile, elle n'est pas inerte, elle n'est pas liée qu'au passé, mais elle est pour nous ce pain vivant, cette nourriture solide. Et nous voulons, Seigneur, écouter ta voix. Je te prie de convaincre nos cœurs, de toucher nos âmes, mais je te prie aussi de régner sur ce moment. Oh, remplis-nous de toi, les uns les autres, pour que nous puissions être fortifiés, renouvelés en toi, et marcher à ta suite pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas si cette année, je ne crois pas que vous avez vécu ça ici, à Toulouse. Il y a eu des moments où, à cause de la météo et du manque de vent, il y a eu des moments où vous avez dû, certainement, je crois, dites-moi si je me trompe, vous avez dû limiter votre vitesse de 10 km/h au moins, voire 20 km/h, à cause du manque, je dirais, d'air qui passe pour que la pollution puisse s'en aller. Hein. C'est pas vrai, l'année dernière, je crois que vous avez vécu ça, non? Une fois, deux fois, quand même, je sais pas. Ça m'intéresse pas plus que ça, je dirais. Hein. Mais c'est important de réfléchir à ça. Et alors que j'avais préparé quelque chose d'autre, hein, je veux revenir à quelque chose qui me semble important de partager. J'ai appelé mon message « faute de vent ». Faute de vent. Je sais que j'ai déjà fait allusion à certaines choses, mais je voudrais me rappeler certaines choses. Faute de vent, et on va lire des textes bibliques tout à l'heure, plusieurs même. Faute de vent, les voiles du bateau, qui n'a pas de moteur, ne se gonfle pas et ne se déplace pas. C'est pas vrai? Vous allez dire, c'est la palisse. Hein. C'est vrai, ça marche pas, on est statique. Et dans la vie chrétienne, il peut arriver des fois que nos cœurs aient vécu des choses auparavant. On a été vraiment conduit par Dieu, le vent de l'Esprit nous a amenés à faire même des choses qui n'étaient pas humaines, dans le sens où c'était conduit par Dieu, on voyait des œuvres préparées d'avance, on a pu vivre des choses, on a pu être un instrument de grâce, restant toujours à notre place en disant que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et on peut être un petit peu, à un moment donné, nostalgique de ces situations et de ces moments. Mais parce qu'aujourd'hui, le vent peut-être n'est plus là. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans le psaume 77. C'est un psaume écrit par Gilles Dutune. Et au verset 4, psaume 77, verset 4. Bon, peut-être auparavant, excusez-moi, à partir du verset 2, quoi, au début du psaume. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. On va un peu plus loin, au verset 11. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Trois petits points. Est-ce que c'est vrai que la droite du Très-Haut n'est plus la même? Non, c'est pas vrai. Mais quand il dit ça, nous comprenons que c'est à cause certainement de situations complexes, de souffrances, d'incompréhension. Peut-être lui-même s'étant éloigné un peu de Dieu et de ce que Dieu voulait accomplir au travers de lui dans sa vie. Et il arrive à dire des choses qui ne sont pas justes. Bien sûr, le texte continue et il y a d'autres choses qui sont dites derrière. Quand les voiles de notre cœur, quand notre cœur n'est pas gonflé, excusez le terme, vivifié par l'Esprit Saint, on peut devenir statique, bien évidemment, et nostalgique. Et on peut même perdre, et on est tous, je ne suis pas dans le jugement, hein, on se comprend, on est tous des êtres humains qui veulent plaire au Seigneur, mais on sait que la vie se charge des fois de nous ralentir, notre foi est parfois malmenée. Notre intellect ou notre morale, notre âme est abattue. Il peut y avoir des moments compliqués. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est plutôt, des fois, terrible dans certains moments. Et on peut tomber dans une forme de nostalgie et de penser qu'au passé. Quand j'étais adolescent et que dans les églises, que j'entendais parler toujours du passé, avant, ça m'énervait. Mais je le dis maintenant, hein, des fois. Hein, mais ça m'énervait. Pourquoi ? Parce que je disais, mais avant, est-ce que Dieu a changé ? Avant, c'était comme ça, mais Dieu peut faire grâce encore aujourd'hui. Dans une ville où on a travaillé dans le ministère, il y a eu un Douglas Scott qui est passé. Et quand il est passé, il a dit dans cette ville, rien ne se fera. Et moi, j'étais en colère hein, quand j'ai entendu ça. Pas par rapport à Douglas Scott. J'ai dit, mais ça, c'est un mensonge. Dieu peut tout, partout. Et Dieu a fait grâce. Hein, alors, je critique pas Douglas Scott, hein, on s'entend. On est des êtres humains, hein. D'accord ? Vous êtes avec moi, j'ai peur que vous ne soyez pas avec moi. Vous êtes avec moi, oui. Ah, ça va, j'ai peur. On peut être nostalgique, et on peut, et la Bible dit de compter les bienfaits de Dieu, elle nous invite à aussi voir le chemin parcouru, bien sûr, et il le faut. Il faut ne pas oublier ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait, et ce que Dieu fera. Parce qu'il va nous dire, il va faire des choses encore. Mais on aurait tendance à être nostalgique. Et vous savez, quand notre cœur, on n'a pas de baromètre, on n'a pas de curseur comme sur le tableau de bord de votre voiture, vous n'avez pas la jauge là pour dire ceci, on n'a pas de jauge de foi. Mais quand nos cœurs commencent à dire et à être un petit peu asséchés, le manque de vent de Dieu, la présence de Dieu se fait plus rare, et c'est, voilà, je ne vais pas expliquer toujours les raisons, on les connaît pour chacun d'entre nous, mais voici que ça démontre. Lorsqu'on commence à parler que sur ce qui s'est passé, voilà, là, c'est formidable, sans vraiment, presque regrettant de ne plus être à ce moment-là, il y a un problème. C'est que la jauge commence à baisser. Et ma foi, elle a besoin d'être renouvelée. Et je me mets dans le lot, hein, qu'on soit clair, on est tous pareils. Il y a des moments où, parmi nous, il y en a, ils sont pleins de foi aujourd'hui, et d'autres moins. Peut-être vous êtes plein de vigueur, et des fois vous êtes abattu. Mais alléluia! Dieu est puissant. Dieu est puissant. Vous savez, j'avais un père qui était militaire de carrière, et des fois, quand il commençait à parler de ce qu'il avait vécu, et de ses médailles, vous voyez ce que je veux dire, hein ? On connaissait les histoires par cœur, gamin. Mais il ne nous disait pas l'arrière du décor. Bon, ça, c'est autre chose. Et il ne faut pas qu'on soit toujours à regarder le passé comme si c'était idéalisé. Mais en fait, ce n'est pas toujours idéalisé. Il y avait des choses merveilleuses. Il y aura des choses merveilleuses aujourd'hui. Il y en aura demain. Il nous faut nous encourager à dire, Seigneur, si ma voile ne se gonfle pas, je ne veux pas aller loin. Si mon cœur n'est pas touché, visité par toi, tout ce que je sais, ça reste théorique. Mais je sais que tu veux me donner un élan nouveau. Tu veux aller plus loin. Les années passées, dans les moments où je citais tout à l'heure qu'à cause de la pollution, on est obligé de ralentir et de rouler moins vite. Nous savons que la pollution, elle s'accroît et c'est insidieux. Vous n'avez pas d'un coup le sentiment qu'il y a peut-être plus de pollution que certains jours, peut-être, hein, dans certains moments quand même, quand c'est vraiment tenace, que le vent n'est pas là. On sait très bien que la pollution demeure sur les villes, surtout les métropoles, etc. Ça devient insidieux, cette pollution, et la personne vit, mais peut-être sans s'en apercevoir, elle subit ça. Elle subit cette pollution, ça peut être même progressif, et on ne s'en aperçoit pas de suite. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre des Juges un exemple. Dans le livre des Juges, chapitre 16, je travaille ces temps-ci à l'église, à l'assemblée, on a parlé de Samson. Juges, chapitre 16. Samson est un juge qui n'a pas eu les mêmes dispositions du peuple. Le peuple n'a pas les mêmes dispositions qu'avec les autres juges, les juges antérieurs. Du temps de Samson, le peuple ne demande pas, ne crie pas à l'Éternel. Vous savez que dans le livre des juges, vous avez 6 cycles d'apostasie, et beaucoup de fois, plusieurs fois, 5 fois au moins, il nous est dit, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur donne un juge. Mais ici, pour Samson, on ne voit pas le peuple se repentir. On ne voit pas le peuple demander à Dieu d'être délivré de l'occupation philistine. Pendant 40 ans, les Philistins vont être là. Et Samson va être suscité par Dieu par cette naissance spéciale. Vous connaissez l'histoire de Samson. Avec attention de ne pas la connaître comme il nous le présente avec Hollywood ou ce que vous voulez, hein, parce que c'est complètement différent. Hein, et plus je le regarde, plus je me dis, tout ce qu'on m'a enseigné sur Samson, c'était un peu tiré par les cheveux, j'allais dire, sans faire le jeu de mots. Hein. Je ne l'ai même pas fait exprès. Regardez au chapitre 16, verset 1er. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Amen. On s'arrête là. Alors je le rappelle, le peuple d'Israël, à ce moment-là, était au plus bas spirituellement. Ils étaient dominés, ce n'était pas comme du temps de Gédéon où des fois ils venaient récupérer les Madianites, ils récupéraient les moissons et les biens, ils pillaient puis repartaient. Là, les Philistins, ils étaient un petit peu dans le pays, ils dominaient, petit à petit ils récupéraient les territoires, tellement que les Danites, à un moment donné, ils ont dû partir. Bon, peu importe. Ce qui nous intéresse ici, je ne vais pas parler de certaines choses, même si je trouve que c'est fort intéressant, mais ce qu'on voit, c'est qu'ici, à un moment donné, Samson, il se lève, il arrache les portes de Gaza. Moi, pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il arrache les portes de Gaza, il les prend, et il les amène là-bas, loin. Vous savez combien? 60 km plus loin, là-bas. Bizarre, hein? Dites, celui-là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vais y arriver. Le peuple ne voulait pas revenir à Dieu. Et Samson, peut-être dans un élan, c'est le seul endroit où je ne vois pas que Dieu il invoque l'Éternel, etc. Samson arrache les portes, il les amène là-bas, il en a assez, il a été appelé à quelque chose, mais il ne voit pas les choses se mettre en route. Il se dit, peut-être, si en faisant ça, j'ouvre les portes. Rappelez-vous, Jéricho, dans la mémoire collective du peuple d'Israël, l'histoire de Jéricho, tout le monde la connaissait. Hein. Les portes étaient barricadées, là. Mais dans cette histoire, on voit que Samson, dans son élan, prend ses portes et les amène bien loin, comme ça on ne peut pas les remettre en place rapidement. Il arrache tout, il les amène là-bas à 60 km, à 1000 mètres d'altitude, pratiquement au niveau de la mer, à Gaza, vous imaginez. Il y va, hein. Et est-ce qu'il voulait susciter, de la part du peuple, une réaction? En disant, maintenant j'ai ouvert les portes, vous n'avez plus qu'à investir. Et est-ce qu'ils ont investi? Il n'y en a pas un qui a bougé un orteil. Bon, je ne sais pas écrit. Hein. Il n'y en a pas un qui a bougé. Alors Samson, après vous voyez, ça chute. Alors, je ne justifie pas qui est Samson, je ne suis pas dans le cœur de Samson, mais d'après ce que la Bible voit dans la Bible, ça m'interpelle. Le peuple s'était peu à peu éteint. La pollution philistine, le polythéisme philistin, l'idolâtrie, toutes ces choses se sont imprégnées, c'était insidieux, comme la pollution de l'air. Insidieux, mais dans la tête, là, c'était confus. Le peuple n'était plus à l'Éternel. Oh, peut-être ils parlaient des fois de l'Éternel, mais leur cœur n'y était plus. Et là, nous avons, je crois, une réflexion, un encouragement à veiller pour chacun d'entre nous. Nous sommes dans ce monde où la pollution de toutes parts est là. Le péché nous enveloppe si facilement. Vous connaissez ces récits. Et on pourrait prendre plusieurs versets. Mais là, le peuple était dans l'oppression, mais était dans la compromission. Il était vraiment dominé, mais il n'avait aucune volonté de réagir. Et mes frères et sœurs, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Ouais, d'accord, hein. On ne veut pas être comme ça. Hein. Parce que sinon, c'est, où est la différence? Où est le peuple de Dieu? Là, le peuple était vraiment dans le désarroi, spirituellement parlant. La pollution s'accroît. Et notre société nous pollue, et je ne critique pas, je ne juge pas. Nous vivons dans ce monde. Nous devons aimer les âmes de ce monde. Mais nous savons qu'il y en a un qui distille des choses tellement terribles, tellement confuses. Mais l'enfant de Dieu, lui, il reçoit la vie de Dieu. Il a besoin qu'un vent de l'esprit passe sur son cœur. Il a besoin d'être renouvelé, régénéré dans toute la présence du Seigneur. Il a besoin de cette vigueur spirituelle qui n'est pas liée à une moralité religieuse. Il faut pas, gna gna, gna gna, et plein, on peut faire un listing, mais il n'y a aucun cœur. Parce que ça, c'est l'hypocrisie. La vérité, c'est que Dieu veut renouveler nos cœurs. Il veut nous remplir de son esprit. Il veut agir dans nos cœurs. Faute de vent, troisième aspect, puis après je vais terminer par un quatrième qui, je pense, sera le revers, je dirais, le bon revers de tout ça. Faute de vent, le brasier, le feu, s'il y a du vent, on sait qu'un tout petit peu de feu peut embraser, hein, des cigarettes jetées dans un endroit où il y a des résineux, c'est risqué. Et nous voyons que le feu, il y a de plus en plus d'incendies dans notre pays et dans d'autres endroits, des endroits même où on pensait qu'à cette époque-là, il n'y aurait rien, mais voici qu'il y a maintenant des choses qui s'accroissent, le feu qui détruit, le feu qui embrase de plein de choses. Mais prenons-le dans le bon sens, pas dans le sens de détruire, dans le sens de vivifier, dans le sens de donner le feu de Dieu sur nos cœurs. Hein. Alors, J'ai pris des notes à la main rapide, je ne regarde plus mes notes, mais je vais faire de mémoire certaines choses. Donc vous me pardonnerez si je suis un petit peu pas trop construit, mais c'est peu importe. Ce qui m'importe, c'est de dire, nous savons que si on prend du bois vert pour faire du feu, ça brûle, mais alors il faut y mettre le paquet, hein. Et ça fume, hein. Hein, ça fume, c'est pas extraordinaire. Pas extraordinaire, n'est-ce pas? Vous savez, dans Genèse 22, regardez Genèse 22. Suivez bien, parce que je vais interroger à la sortie tout à l'heure. Hein. Genèse chapitre 22, verset 6. Nous sommes au sacrifice, Dieu demande à Abraham et lui dit, donne-moi ton fils. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, hein, prends-le. Et au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau, ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et est-ce que ça s'est avéré vrai? Oui, Dieu a pourvu pour un animal, afin que le sacrifice, qu'il y ait une substitution par rapport à Isaac. Ici, la question qui se pose, la question que pose Isaac, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Nous savons que l'agneau, il a déjà été donné. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Hein? Nous savons que le feu qui embrase l'Église, c'est l'Esprit-Saint. Vous êtes avec moi, vous dites, ouais, il y a une drôle de théologie, oui, c'est ça. Et la troisième chose, c'est le bois. Nous sommes le bois. Nous sommes le bois, nous sommes un bois. Alors, il y a plusieurs variétés de bois, je vais arrêter parce que sinon ça risque de dégénérer, hein, sur cet aspect-là. Mais il y a une réalité, c'est qu'on doit être un bois sec. Vous savez, comme le bâton d'Aaron. Je m'excuse, hein, parce que j'ai plein de choses qui se bousculent ma tête. On va aller dans Exode, chapitre 4. Vous allez comprendre. Exode, chapitre 4. Verset 1er. Moïse répondit et dit, alors que Dieu l'appelle, voici, ils ne croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu, ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre, et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. On comprend, hein, c'est pas marqué qu'on comprend. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, il le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main, un bâton dans sa main. Et puis, vous savez qu'il va lui donner d'autres conseils. Arrêtons-nous un instant sur cette situation. Moïse a ce bâton dans la main, bâton du fait qu'il a été aussi, n'oubliez pas, berger. Ça doit être certainement utilisé pour d'autres choses. Il a ce bâton à la main, et Dieu lui dit de le jeter par terre. Il le jette par terre, ça devient un serpent. Bien sûr, Moïse est surpris. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu, ben, récupère le bâton, le serpent, prends-le par la queue, et puis quand il le prend par la queue, ça devient un bâton. Pour moi, il y a... Bon, je vais le sortir un petit peu du contexte, et je voudrais faire cette analogie avec ceci. Ma vie, elle peut être ou un serpent, vous comprenez, hein, ou un bâton. Soit je me laisse aller, je me jette à terre, et je me laisse aller, alors je deviens un serpent, je reprends le chemin ancien dans lequel je vivais, et je suis charnellement, je ne suis pas très productif, si ce n'est que je suis plein de venin et plein de méchanceté, et je reprends les choses sur lesquelles j'ai été tombé auparavant. Et soit par la grâce de Dieu et par l'autorité de Dieu que Dieu m'a donnée, je désire marcher par l'esprit et non pas par la chair, je désire être un chrétien sérieux, je saisis ce bâton, ma vie, je veux qu'elle soit inerte. Inerte, non pas dans le sens « elle ne sert à rien », mais ma mort à moi-même est importante. Parce que si je meurs à moi-même, je peux être un bâton qui va être utilisé pour des choses et pour le chemin de Dieu. Si je me laisse aller, je vais devenir ce serpent. Comprenez l'analogie, c'est simple. Hein, Et quand la Bible révèle que nous devons marcher par l'Esprit, nous devons vraiment cheminer, on est né de nouveau par l'Esprit, il dira marcher selon l'Esprit, il nous invite à continuer à cheminer. Il faut comprendre que si je ne veille pas, je peux me laisser aller et retomber par terre. Je ne dis pas que Dieu m'a abandonné, c'est moi qui abandonne Dieu, hein, on se comprend. Et le brasier, il a besoin de bois qui soit sec. Nous voulons et nous disons, Seigneur, parfois, moi je le dis souvent, glorifie ton nom au milieu de nous, envoie ton esprit. Révèle dans ton église le feu de Dieu, qu'il y ait vraiment des dons spirituels, des choses qui glorifient ton nom, que tu sauves, etc. Mais peut-être, Seigneur, de dire, oui, j'ai le feu, j'ai pourvu en Jésus-Christ, et le bois, là, comment il est? Il ne dit pas, il ne me dit pas, mais vous comprenez? Comment je suis? Comment tu es? Est-ce que tu es vert? Est-ce que tu te laisses aller? Et le Seigneur nous rappelle qu'il veut embraser l'Église, il veut embraser son peuple. Il n'y a pas un temps où il veut, il laisse faire, il se tourne de l'Église, il l'a oublié. Non, il n'oublie jamais l'Église, il aime l'Église. Dieu a tout voulu donner à Jésus-Christ, à vous donner une épouse belle. Seulement, souvent, on croit que c'est Dieu qui ne veut pas faire parce qu'il ne veut pas faire, mais c'est nous qui ralentissons. Alors, je ne dis pas de devenir paranoïaque et de se faire du mal, hein, dans ce que je veux dire là, mais je nous invite vraiment à réfléchir à ces choses. Suis-je un bois sec qui pourrait être embrasé du feu de Dieu? Suis-je un bois vert qui va insupporter ou qui va ralentir l'action de Dieu? Et puis nous savons que le feu a besoin de cet oxygène, de ce vent. S'il y a un vent vraiment particulier, il suffit de faire un appel d'air. Vous qui faites des barbecues, là, certains, là, je suis sûr. Hein. Et là, moi, j'en ai vu avec des sèche-cheveux à allumer les barbecues. Hein, parce qu'il y avait photo de vent, et bien on fait ses cheveux. Madame, elle n'était pas contente, mais bon, je l'ai vu aussi, hein, je l'ai fait aussi. Donc, on allume au sèche-cheveux, pourquoi ça fait du vent? Ça attise. Et quand Dieu veut donner de l'oxygène à l'Église, il veut donner une vivifier l'Église, alléluia. Et je ne dis pas que l'Église ne va pas ici, hein. Comprenez-moi, je dis simplement que Dieu veut faire bien plus. Dieu veut faire bien plus. Parce qu'il nous aime, il veut envahir le peuple de Dieu. Et dans ce monde qui s'est en ténèbres de plus en plus, nous croyons que la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Et il veut vraiment investir l'Église de sa puissance et de sa gloire. Peu importe, je dirais l'Église, hein, vous comprenez, c'est pas, on ne fait pas un concours d'Église, mais peu importe l'Église. Alors, je vais terminer par cet aspect. Allons dans Matthieu, au chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. Verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. C'est vraiment dramatique la manière de réagir. Hein. Mais ça c'est bien l'esprit religieux qui est toujours en concurrence, en train d'essayer de maîtriser les choses, etc. Non, non. Ici Jésus, il sait très bien qu'on est en train de lui tendre un piège. Il le sait. Il n'a pas. Excusez-moi, il savait souvent même quand ce que les gens pensaient dans leur cœur. Alors là, c'est clair qu'il savait. Il ne s'est pas laissé, excusez-moi le terme, impressionner ou arrêter. Il a fait ce qu'il a fait ici, qui était formidable. Mais ce qui m'intéresse, c'est cet homme. Cet homme à la main droite, il nous a dit, sèche, c'est-à-dire handicapé. Et peut-être était-il gêné, se cachait-il? On l'a amené là, vous imaginez, il est manipulé quelque part, on le pousse à venir là. Peut-être qu'il savait qu'il était l'instrument de piège pour Jésus, quoi, celui qui allait être un objet de manipulation pour essayer de coincer Jésus. Jésus savait, aurait pu trouver une autre échappatoire, il n'a pas fait, il ne cherche pas. Il dit à l'homme de venir devant. Cet homme vient devant, il lui dit « Étends ta main ». Pourquoi je dis ça? Si ma voile et mon cœur... et pas, comment dire, le souffle de Dieu est par sur ma vie, ou moins, beaucoup moins qu'avant. Le Seigneur, ce matin, te dit, étends ton cœur. Seigneur, ce matin, te dit qu'il veut remplir et renouveler ta vie. Et le Seigneur te fait comprendre que s'il y a quelque chose qui paralyse, qui handicape ta vie, il veut vraiment que tu viennes devant lui et que tu oses étendre ta vie devant lui, que tu oses dire « j'ai besoin ». Tant qu'il cachait, peut-être cachait-il son handicap parce que bon, c'était gênant, c'était humiliant. Bon. Tant qu'il le cachait, tant qu'il ne s'est pas approché, tant qu'il n'est pas venu obéir à ce que Jésus lui disait, la main n'a pas été guérie. C'est seulement quand il a tendu sa main. C'est seulement quand il a montré sa main paralysée qu'il a été guéri. Mon frère, ma sœur, si tu te sens... Je vais pleurer les enfants ici. Si tu te sens vraiment sec, et si ta vie spirituelle s'est asséchée, et c'est comme un handicap aujourd'hui, tu as du mal à marcher devant les autres, tu parais comme il faut. Mais c'est normal, on est des bons comédiens tous. Hein? Mais si dans ton cœur, tu sais que c'est paralysé, ce matin, le Seigneur te dit que tu dois t'approcher de lui. Non pas, tu dois, il t'encourage à t'approcher. Tu fais comme tu veux, mais il t'aime. Et il veut, à l'instant, te donner une pleine vie, une vie abondante. Alléluia. Hein? Jour de la dédicace du temple, je m'arrête là, de Salomon, dans le second livre des Chroniques, il nous est dit que, alors qu'ils officient, c'est le jour de la dédicace, la première fois qu'on inaugure ce bâtiment extraordinaire pour la gloire de Dieu, voici, il nous est dit qu'il y avait une telle présence de Dieu que les 120 sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dû sortir. Ils ont dû sortir. La gloire de Dieu était manifeste. C'était particulier. Et quand je parle de fait d'étendre ton cœur, tu dois revenir comme une nouvelle, comment dire, un retour à une nouvelle consécration, une consécration complète. Le Seigneur ne veut pas une partie de nous, il veut tout notre être, nous le savons, mais il y a dans nos cœurs des combats des fois. Et si ce matin tu es interpellé pour dire que tu dois étendre ton cœur, il t'encourage à étendre le cœur, c'est parce qu'il veut renouveler en toi cette présence puissante de Dieu. Il veut te renouveler dans la vie de l'esprit. Il veut te renouveler dans la manière de concevoir les choses. Tu as besoin d'un collier sur tes yeux, moi aussi, on a tous besoin. On a besoin de renouveau de Dieu. Et en tant qu'Église, nous avons besoin d'encore être renouvelés jour après jour. Il le fait et il nous aime. Et je voudrais terminer en disant vraiment que le Seigneur soit glorifié. Que nous soyons de ceux qui soient bien disposés. On veut le souffle de Dieu sur nos vies, vous comprenez, hein, c'est pas, je ne parle pas d'un truc bizarre, hein, mais de ce que la parole dit. Et si on connaît la lettre qui peut nous tuer même, la lettre qui tue, nous savons que l'esprit vivifie. Qu'est-ce que ça veut dire vivifier ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rendre vivant ce qui est mort. Alléluia. Si ma vie spirituelle est en train de mourir, ben n'agonise pas. Étends ta main. Étends ton cœur. Étends ta vie. Si ta vie spirituelle est meurtrie, tu n'en peux plus, alors je ne parle pas des fatigues. Hein, on peut être fatigué, on peut avoir à un moment donné une forme de saturation. Ce n'est pas pour autant qu'on abandonne la foi. Mais je parle là de peut-être quelqu'un, permettez-moi, j'insiste un peu, mais je le ferai rarement ça, mais c'est sur mon cœur. Je parle à quelqu'un qui peut-être même a des responsabilités des fois dans l'Église, mais ce n'est pas grave ça. Ce qui est grave, ce serait de rester à cacher la main. Par contre, étends, montre, donne au Seigneur, montre-lui, dis-lui. On va prier pendant quelques minutes là, si vous voulez bien. Je ne vais pas faire d'appel, je ne voudrais pas mettre qui que ce soit mal à l'aise, je pourrais, hein, c'est peut-être opportun, peut-être quelqu'un a besoin qu'on prie avec lui, c'est possible, mais il y a des anciens dans l'Église. Et souvent, dans l'église où je suis, je le dis souvent, tout s'arrête pas à la réunion, là, ça y est, c'est fini, puis on recommence notre vie comme si rien n'était. Hein. Ce serait terrible. Mais on peut prier avec vous, quelqu'un peut prier avec toi. Tu peux te confier à quelqu'un et dire, j'ai besoin de soutien. Et cette personne, d'une confiance, ne va pas le dire partout, elle va juste dire, ben, je vais prier tout mon cœur et je vais demander de la grâce de Dieu. Et ce matin, vraiment, courbons nos fronts, mais ouvrons nos cœurs. Approchons-nous du Seigneur. Si vous êtes en forme spirituellement, alléluia, mes frères et sœurs. Je veux dire, voilà, ne cherchez pas à vous culpabiliser s'il n'y a rien à remettre en question. Mais si vous n'êtes pas en forme spirituellement, le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur ne veut pas donner... Ouais, je pense à ce verset qui dit « Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Plein, plein, plein. Tu peux venir boire. Tu n'es pas de... Ça ne sèche jamais dans le Seigneur. il veut te donner. Alléluia. Si vous êtes concerné, priez. Alors que je parle, priez dans le Seigneur. Demandez au Seigneur de répandre votre cœur, vraiment, mais une décision, pas seulement la décision de ce matin-là, mais une décision dans la semaine, tout au long de cette semaine. Cherchez Dieu et dites, j'ai besoin d'être renouvelé, ça suffit. Je me positionne, j'ai besoin d'être renouvelé de toute la vie de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas faire de nous des hommes et des femmes qui subissions la vie, il veut faire de nous des hommes et des femmes qui vivons la vie d'en haut. Qui vivons la vie d'en haut. Pas une vie triquée, pas une vie étouffante à cause de la pollution, mais une vie de victoire par la grâce de Dieu. Tu es, Seigneur, l'auteur de l'Église. Tu es celui qui bâtit l'Église. Et tu donnes tout ce qui contribue à la vie et à la piété, dit ta parole. Alors tu ne veux pas que nous soyons les uns les autres étouffés par le monde, étouffés par les circonstances. Tu veux plutôt renouveler nos vies de cette onction d'en haut. Oh, que le vent de ton esprit, Seigneur, embrase nos cœurs. On a besoin de cette fraîcheur d'en haut. On a besoin, Seigneur, de cette vigueur de l'esprit. On a besoin d'être renouvelé dans la foi, de marcher à ta suite. Oh, vraiment, inonde nos cœurs. Fais grâce, Seigneur. Pardonne-nous. Amène-nous à aller plus loin. Merci de bénir cette assemblée. Merci pour ce que tu fais. Tu es glorieux. Et tu vas faire grâce. Oh, tu vas bénir encore. Tu vas permettre que des âmes soient arrachées des ténèbres et passent des ténèbres à ta lumière. Mais Seigneur, nous voulons pour cela aussi les uns les autres être vivants en toi. Oh, inonde nos cœurs. Nous voulons être ce bois sec qui peut être embrasé facilement par l'Esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui ne se laissent pas aller dans ce monde, redevenant ce serpent. Mais nous voulons plutôt, Seigneur, être vivants en toi. Et comme, Seigneur, ce bâton d'Aaron a été mis là, près de l'autel des holocaustes, il y a eu, en une nuit, Seigneur, des amandes, il y a eu des feuilles. Seigneur, lorsqu'on est soumis à toi, on peut produire un fruit qui n'est pas issu de nos propres capacités. Mais c'est toi en nous, Seigneur. Alors bénis chacun d'entre nous. On a besoin de cette fraîcheur. On a besoin de cette onction. Alléluia. Merci pour ce que tu donnes. Merci pour le pardon que tu accordes. Merci également pour le renouveau que tu veux faire. Oui, ce qui a été caché aujourd'hui est mis à nu devant toi. Et Seigneur, tu te plais à bénir et tendre tes mains. Ce lépreux, Seigneur, qui était impur, tu as posé ta main sur lui, il a été guéri. Et nous sommes parfois comme des lépreux. Honte à nous, Seigneur, mais tu te plais à bénir et à pardonner. Merci, Seigneur. Amen. Amen.